From the conference center at
Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session générale des femmes de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs sont membres de la première présidence et des organisations générales des femmes de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur mixte de la primaire, des jeunes filles et de la société de secours des pieux de Salt Lake City, Murray, Camas et Park City. Les femmes, les jeunes filles et les filles de plus de 8 ans sont réunies dans le monde entier pour recevoir des conseils et des instructions des dirigeants de l'Église. Linda K. Burton, présidente générale de la société de secours, dirigera cette session. Bienvenue à la session générale des femmes de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À travers le monde, des femmes et des filles de plus de 8 ans sont réunies dans de nombreuses régions différentes. Nous sommes heureuses d'avoir parmi nous des amis membres d'autres confessions religieuses. Nous vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Nous savons que nous sommes toutes les filles d'un Père céleste aimant et nous réjouissons des liens fraternels qui nous unissent. Nous vous remercions d'être parmi nous. Thomas S. Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Je m'appelle Linda K. Burton et je suis la présidente générale de la Société de secours. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir le président Monson et ses conseillers, les présidents Ehring et Urdorf, avec nous ce soir. Nous les aimons et les soutenons de tout notre cœur. Nous saluons également la présence de Jeffrey R. Holland et de Detod Christofferson du Collège des Douze Apôtres, ainsi que de Gary Stevenson, évêque-président de l'Église. Nous sommes reconnaissantes de leur soutien aimant et nous leur communiquons également notre soutien réciproque. Sont aussi assis sur l'estrade nos sœurs bien-aimées servant dans les présidents généraux de la primaire, des jeunes filles et de la société de secours, ainsi que les membres de leurs bureaux généraux respectifs. Quelle magnifique bénédiction de servir ensemble dans cette œuvre merveilleuse et ce prodige. La musique de ce soir sera interprétée par un chœur de famille, de sœurs, de diverses pieux de Salt Lake City en Utah et de ses environs, dirigé par Erin Pike-Tall et accompagné à l'orgue par Linda Margetts. Le chœur et l'assemblée ouvriront maintenant cette réunion en chantant « Quel fondement ferme ». Nous chanterons les couplets 1, 2, 3 et 7. Sœur Beverly Tingey fera ensuite la prière d'ouverture. Elle m'a donné la permission de vous dire qu'elle a 86 ans et qu'elle sert dans la présidence de la société de secours de Holladay en Utah.
Thank you.
our dear Heavenly
Notre
Father.
Cher Père Céleste. Nous te remercions en ce jour de pouvoir nous réunir pour que nous puissions être instruites par nos dirigeants et recevoir leurs conseils. Nous te remercions pour les nombreuses bénédictions que tu nous donnes, Père. Nous prions pour que nous écrivions dans notre cœur les enseignements que nous recevrons aujourd'hui pour que nous puissions nous en servir dans notre vie afin de mieux te servir. Nous te remercions, Père, pour notre prophète, le président Monson. Nous prions pour lui et pour toutes les personnes qui travaillent avec lui. Nous te remercions pour les bénédictions que chacune de nous reçoit. Nous t'aimons, Père. Nous aimons ton Fils. Nous voulons te suivre et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
...2015 est une année historique qui marque le 100e anniversaire de la soirée familiale et le 20e anniversaire de la Déclaration au monde sur la famille. Pour célébrer la doctrine de la famille, nous allons maintenant regarder une vidéo d'un ensemble musical familial interprétant « La famille est ordonnée de Dieu ». Après ce chant, nous aurons le plaisir d'entendre Cheryl A. Esplin, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Elle sera suivie de Carol M. Stephens, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Nous regarderons ensuite une présentation vidéo sur laquelle deux sœurs expriment leurs pensées et leurs sentiments sur ce que signifie la famille pour elles.
Come on.
My heart filled with the Spirit.
Mon cœur s'est empli de l'Esprit quand j'ai écouté ces familles enseigner cette vérité sacrée. La famille est ordonnée de Dieu. La musique inspirante n'est qu'une des nombreuses manières dont nous pouvons sentir l'Esprit nous adresser des murmures, nous emplissant de lumière et de vérité. L'idée d'être rempli de lumière et de vérité est devenue particulièrement importante à mes yeux du fait d'une expérience que j'ai vécue il y a de nombreuses années. J'assistais à une réunion où les membres du Bureau général des jeunes filles enseignaient comment faire que nos familles et nos foyers soient spirituellement forts. Afin de démontrer cela visuellement, une dirigeante des jeunes filles a brandi deux canettes de soda. Dans une main, elle tenait une canette vide et dans l'autre, une canette pleine de soda et fermée. D'abord, elle a serré la canette vide. Celle-là a commencé à plier, puis à s'écraser sous la pression. Ensuite, de l'autre main, elle a serré la canette pleine. Celle-ci a résisté. Elle ne s'est pas pliée ni écrasée comme celle qui était vide parce qu'elle était pleine. Nous avons comparé cette démonstration à notre vie, à notre foyer, à notre famille. Quand nous sommes emplis de l'Esprit et de la vérité de l'Évangile, nous avons le pouvoir de résister aux forces extérieures du monde qui nous entoure et font pression sur nous. Par contre, si nous ne sommes pas emplis spirituellement, nous n'avons pas la force intérieure de résister aux pressions extérieures et nous pouvons nous effondrer lorsqu'elles s'exercent contre nous. Satan sait que notre famille et nous devons être emplis de la lumière et de la vérité de l'Évangile afin de pouvoir résister aux pressions du monde. Il fait donc tout ce qui est en son pouvoir afin de diluer, déformer et détruire la vérité de l'Évangile et nous en tenir éloignés. Beaucoup d'entre nous se sont fait baptiser et ont reçu le don du Saint-Esprit, dont le rôle est de révéler et d'enseigner la vérité de toutes choses. Ce don qui nous est octroyé s'accompagne de la responsabilité de rechercher la vérité, de vivre selon la vérité que nous connaissons et de faire connaître et défendre la vérité. Le meilleur endroit où s'efforcer d'être empli de lumière et de vérité est notre foyer. Les paroles du refrain du chant que nous avons entendu nous rappellent. Dieu nous donne un foyer pour nous aider à devenir comme lui. La famille est l'atelier du Seigneur sur terre, destiné à nous apprendre et à vivre l'Évangile. Nous arrivons dans notre famille avec le devoir sacré de nous fortifier spirituellement les uns les autres. Les familles éternelles fortes et les foyers remplis de l'Esprit ne sont pas le fruit du hasard. Ce résultat demande de grands efforts, cela prend du temps, cela exige que chaque membre de la famille fasse sa part. Chaque foyer est différent, mais chaque foyer où ne serait-ce qu'une seule personne recherche la vérité peut faire changer les choses. On nous conseille continuellement d'accroître notre connaissance spirituelle par la prière, l'étude et la méditation des Écritures et des paroles des prophètes actuels. Dans son discours de conférence générale intitulé « Recevoir un témoignage de lumière et de vérité », Dieter F. Uhrdorf a dit « Le Dieu éternel et tout-puissant parle aux personnes qui s'adressent à lui avec un cœur sincère et une intention réelle. Il leur parle dans des rêves, des visions, des pensées et des sentiments. » Le président Uhrdorf a ajouté « Dieu se soucie de vous. Il écoutera vos questions et y répondra. » Les réponses à vos prières viendront de la manière et au moment qu'il choisira. C'est pourquoi vous devez apprendre à écouter sa voix. Un épisode de notre histoire familiale illustre ce conseil. Il y a plusieurs mois, j'ai lu le témoignage de la sœur de mon arrière-grand-père, Elisabeth Staley Walker. Enfant, Elisabeth quitte la Suisse et immigre en Amérique avec sa famille. Après son mariage, son mari, ses enfants et elle vivent près de la frontière du Nevada où ils s'occupent d'un relais postal. Leur foyer est une escale pour les voyageurs. À longueur de journée et de nuit, ils doivent être prêts à cuisiner et à leur servir des repas. C'est un travail dur et épuisant et ils ont peu de répit. Mais ce qui préoccupe le plus Elisabeth, ce sont les conversations des personnes qu'il fréquente. Elle dit que jusqu'à cette époque-là, elle a considéré comme allant de soi que le livre de Mormon est vrai, que Joseph Smith, le prophète, a reçu l'autorité de Dieu de faire ce qu'il a fait et que son message est le plan de vie et de salut. Mais la vie qu'elle mène ne fait rien pour affermir une telle conviction. Certains des voyageurs qui s'arrêtent sont des hommes lettrés, instruits, intelligents, et le sujet qui revient toujours à table est que Joseph Smith est un imposteur rusé qui a écrit lui-même le livre de Mormon et l'a ensuite distribué pour se faire de l'argent. Il semble, à leur manière d'agir, qu'il est absurde de penser autrement. Ils affirment que le mormonisme n'est que fadaise. Tous ces propos provoquent chez Elisabeth un sentiment d'isolement. Il n'y a personne à qui parler, même pas le temps de prier, bien qu'elle le fasse pendant qu'elle travaille. Elle a trop peur pour dire quoi que ce soit aux gens qui se moquent de sa religion. Elle dit qu'elle n'est même pas sûre qu'ils ne disent pas la vérité, et elle a le sentiment qu'elle ne pourrait pas défendre ses convictions si elle essayait de le faire. Plus tard, elle déménage avec sa famille. Elle dit qu'elle a davantage de temps pour réfléchir et n'est plus aussi distraite tout le temps. Souvent, elle se rend dans la cave et prie notre Père Céleste au sujet de ce qui la perturbe, de ces histoires que ces hommes apparemment intelligents ont racontées sur l'Évangile, qu'ils ont qualifiées de fadaises, et sur Joseph Smith et le livre de Mormon. Une nuit, elle fait un rêve, elle dit « Il me semble me tenir sur un sentier étroit » qui mène au pied d'une petite colline. À mi-hauteur sur la colline, je vois un homme qui regarde vers le bas et parle, ou semble parler à un jeune homme agenouillé penché au-dessus d'un trou. Il tend les bras comme pour attraper quelque chose dans le trou. Je vois le couvercle de pierre qui semble avoir été retiré du trou au-dessus duquel le garçon est penché. Il y a de nombreuses personnes sur la route, mais aucune ne semble accorder le moindre intérêt aux deux hommes sur la colline. Quelque chose se produit en même temps que le rêve et m'impressionne tellement par son étrangeté que je me réveille d'un coup. Je ne peux raconter mon rêve à personne, mais je suis convaincue qu'il représente l'ange Moroni instruisant le jeune Joseph au moment où il a obtenu les plaques. Au printemps 1893, Elisabeth se rend à la consécration du temple de Salt Lake City. Elle décrit son expérience. « J'y vois la même image que celle de mon rêve. Je crois que c'était un vitrail coloré. Je suis convaincue que si je voyais la colline Cumora de mes yeux, elle ne me paraîtrait pas plus réelle. » Je suis certaine que l'image de l'ange Moroni confiant les plaques d'or à Joseph Smith m'a été montrée dans un rêve. De nombreuses années après avoir fait ce rêve et plusieurs mois avant de décéder à près de 88 ans, Elisabeth reçoit une inspiration qui la marque profondément. Elle dit « La pensée m'est venue aussi clairement que si quelqu'un m'avait parlé et dit « N'enterre pas ton témoignage ». Des générations plus tard, la postérité d'Elisabeth continue de puiser de la force dans son témoignage. Comme elle, nous vivons dans un monde où de nombreux incrédules et détracteurs se moquent des vérités qui nous sont chères et s'y opposent. Nous pouvons entendre des histoires troublantes et des messages contradictoires. Aussi, tout comme Elisabeth, devons-nous faire de notre mieux pour nous accrocher à toute la lumière et à toute la vérité dont nous disposons actuellement, surtout dans les situations difficiles. La réponse à notre prière peut ne pas nous parvenir de façon spectaculaire, mais nous devons trouver des moments paisibles ou rechercher davantage de lumière et de vérité. Et lorsque nous en recevons, nous avons la responsabilité de la vivre, de la faire connaître et de la défendre. Je vous témoigne que je sais qu'en emplissant notre cœur et notre foyer de la lumière et de la vérité du Sauveur, nous aurons la force intérieure de résister en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Y a-t-il quoi que ce soit de plus beau et de plus profond que les vérités pures et simples de l'Évangile enseigné dans un chant de la primaire? Et vous toutes, fillettes de la primaire ici, présentes ce soir, vous connaissez le chant dont je vais parler. Vous l'avez appris l'an dernier à l'occasion de votre programme de la primaire. Dans les paroles de la famille est ordonnée de Dieu que nous avons entendues tout à l'heure, on nous rappelle la doctrine pure. Nous apprenons non seulement que la famille est ordonnée de Dieu, mais également que chacune de nous fait partie de la famille de Dieu. La première phrase du chant enseigne « Dieu a vraiment beaucoup d'enfants. C'est toi, c'est moi. Le monde entier est sa famille. » La déclaration sur la famille nous apprend « Dans la condition primordiale, les fils et les filles d'esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel. » Dans cette sphère, nous avons découvert notre identité féminine éternelle. Nous savions que chacune de nous était une fille d'esprit aimée de parents célestes. Notre voyage dans la condition mortelle sur la terre n'a rien altéré à ces vérités. Nous appartenons toutes à la famille de Dieu et elle a besoin de nous. Les familles terrestres sont toutes différentes. Et bien que nous fassions de notre mieux pour fonder des familles traditionnelles solides, l'appartenance à la famille de Dieu ne dépend pas d'un statut quel qu'il soit. Marital, parental, financier, social, ou même du genre de statut que l'on publie sur les réseaux sociaux. Nous avons notre place. Nous sommes les filles de notre Père Céleste qui nous aime et que nous aimons. La deuxième ligne développe la première. Chacun de nous, un jour sur terre, est né pour apprendre et vivre ensemble dans nos familles. Dans la vie prémortelle, nous avons appris que nous aurions besoin d'une période de conditions mortelles. Nous avons accepté le plan de notre Père Céleste selon lequel ses enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. Richard G. Scott a expliqué qu'on nous a enseigné dans le monde prémortel que notre but en venant ici-bas était d'être mis à l'épreuve, d'être amené à nous dépasser. Ce dépassement de soi se présente sous autant de formes qu'il y a de personnes pour le vivre. Je n'ai jamais eu à vivre le divorce, la douleur et l'insécurité de l'abandon ou la responsabilité d'être une mère célibataire. Je n'ai pas vécu le décès d'un enfant, la stérilité ou l'attirance pour les personnes du même sexe. Je n'ai pas souffert de sévices, de maladies chroniques ou de dépendance. Ces possibilités de dépassement de soi ne m'ont pas été données. Donc là, certaines d'entre vous se disent, « Sir Stevens, vous ne comprenez pas. » Et je réponds que vous avez probablement raison. Je ne comprends pas totalement vos difficultés, mais grâce à mes épreuves à moi, celles qui m'ont fait me mettre à genoux, j'ai appris à bien connaître celui qui comprend, celui qui est habitué à la souffrance, qui a tout vécu et qui comprend tout. De plus, j'ai vécu toutes les épreuves de la condition mortelle que je viens de mentionner du point de vue de fille, mère, grand-mère, sœur, tante et amie. Notre chance en tant que filles de Dieu qui respectent leurs alliances n'est pas simplement de tirer des leçons de nos problèmes. C'est aussi de nous unir dans l'empathie et la compassion en soutenant d'autres membres de la famille de Dieu dans leurs difficultés, comme nous avons fait alliance de le faire. Ainsi, nous parvenons également à comprendre et à compter sur le fait que le Sauveur connaît les difficultés du chemin et peut nous guider à travers tous les chagrins et toutes les déceptions éventuelles. Il est la vérité charité, et son amour subsiste à jamais, en partie par notre intermédiaire si nous le suivons. En qualité de filles de Dieu et de disciples de Jésus-Christ, nous agissons donc selon les sentiments que Dieu a implantés en notre cœur. Notre sphère d'influence n'est pas limitée aux membres de notre famille. J'ai récemment eu l'occasion de rendre visite à Sœur Yazi du Pieu de Shinley en Arizona, dans sa case en terre. Quand elle m'a fait entrer chez elle, la première chose que j'ai remarquée était la grande variété de photos de famille et de missionnaires sur les murs et les tables. Je lui ai donc demandé, « Sœur Yazi, vous avez combien de petits-enfants ?» Surprise par ma question, elle a haussé les épaules. Perplexe devant sa réaction, j'ai regardé sa fille, Sœur Yellower, qui a répondu. Elle ne sait pas combien elle a de petits-enfants. Tous les enfants l'appellent grand-mère. Elle est la grand-mère de tout le monde. Sœur Yazi ne limite pas son amour et son influence à sa famille biologique. Elle comprend ce que signifie élargir son cercle d'influence en faisant le bien, en bénissant, en soutenant et en défendant la famille de Dieu. Elle comprend que chaque fois qu'une femme fortifie la foi d'un enfant, elle contribue à la force d'une famille, maintenant et dans l'avenir. La troisième phrase du chant explique le but de notre vie dans la condition mortelle. Dieu nous donne un foyer pour nous aider à devenir comme lui. Le Sauveur a enseigné, soyez un. Et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. La déclaration sur la famille enseigne qu'en qualité de fille d'esprit aimée de parents célestes, notre nature est divine. Notre identité et notre objectif sont éternels. Dieu veut que nous soyons un, des filles qui respectent leurs alliances, unies dans la diversité de leur vie personnelle et qui désirent apprendre tout ce qui est nécessaire pour retourner dans sa présence, scellée à lui dans sa famille éternelle. Les ordonnances et les alliances sacrées que l'on peut accomplir dans les saints temples nous permettent de retourner dans la présence de Dieu et aux familles d'être unies éternellement. Les ordonnances que nous recevons et les alliances que nous contractons lors du baptême et dans les saints temples relient la famille de Dieu des deux côtés du voile, nous rattachent à notre Père par l'intermédiaire de son Fils qui a fait cette prière. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. En employant notre temps dans la condition mortelle, à étudier et à appliquer les enseignements du Sauveur, nous devenons davantage semblables à lui. Nous en venons à comprendre qu'il est le chemin, le seul chemin, par lequel nous pouvons vaincre les difficultés de la condition mortelle, être guéris et retourner dans notre foyer céleste. La dernière phrase du chant nous ramène à son début. C'est le plus grand don des cieux. La famille vient de Dieu. Le plan du Père pour ses enfants est un plan d'amour. Et c'est un plan conçu pour unir ses enfants, sa famille, à lui. Russell M. Nelson a enseigné. Notre Père céleste ne désire que deux choses pour ses enfants. L'immortalité et la vie éternelle. Ce qui signifie la vie avec lui de retour chez nous. Ces désirs ne peuvent se réaliser que si nous nous communiquons l'amour que notre Père Céleste a pour sa famille, en tendant la main et en faisant connaître son plan aux autres. Il y a 20 ans, la première présidence et le collège des 12 apôtres s'est adressé au monde entier en publiant une déclaration sur la famille. Depuis, les attaques contre la famille se sont multipliées. Pour réussir dans nos responsabilités sacrées de filles de Dieu, nous devons comprendre l'importance éternelle et notre responsabilité individuelle d'enseigner les vérités relatives au plan de notre Père Céleste pour sa famille. Howard W. Hunter a expliqué. Il y a un grand besoin de battre le rappel des femmes de l'Église pour qu'elles fassent front avec les autorités générales, pour endiguer le déferlement du mal qui nous entoure et faire avancer l'œuvre de notre Sauveur. Nous vous supplions d'exercer votre grande influence bénéfique pour fortifier nos familles, notre Église et la société. Sœurs, nous avons notre place. Nous sommes aimés. Nous sommes nécessaires. Nous avons un objectif divin, une œuvre, une place et un rôle divin dans l'Église et le royaume de Dieu et dans sa famille éternelle. Savez-vous, au fond de votre cœur, que notre Père Céleste vous aime et désire que vous et vos êtres chers soyez avec lui, tout comme notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ sont parfaits, leurs espoirs pour nous sont parfaits, leur plan pour nous est parfait, et leurs promesses sont sûres. De ces vérités, je témoigne avec reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen.
Est essentiel au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes, et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine.
Je sais que si nous sommes scellés ici sur terre, nous avons un lien ici, et nous aurons ce lien dans les cieux si nous menons une vie juste.
Dans cette famille, il n'y a pas d'intransigeance. Nous agissons de concert.
Les discussions commencent souvent simplement par une petite question sur l'Évangile ou sur quelque chose que nous n'avons pas compris, et nous en parlons tous ensemble. Je suis très reconnaissante de l'Évangile et de mon progrès personnel, de la façon dont il me prépare un jour à être mère et à avoir mon propre foyer.
J'ai vu notre fils continuer à venir à l'église, les voir tenir des soirées familiales avec un enfant de 5 ans qui ne veut pas écouter, mais qui écoute quand même. Il leur enseigne l'Évangile et ils vivent selon ce qu'ils enseignent. Quand vos enfants vous voient vivre selon ce que vous enseignez, ils se rendent compte que vous ne le faites pas que pour ça, mais que cela fait partie de votre vie et de ce que vous êtes.
Je n'ai pas été élevée par mes parents, mais j'ai eu la chance de l'être par ma grand-mère. J'ai connu l'Évangile grâce à elle. Et grâce à elle, j'ai progressé personnellement, spirituellement et temporellement.
Mes sœurs et ma mère sont des exemples, car elles lisent les Écritures, prennent la Sainte Cène et sont serviables aux autres personnes.
C'est super de rire, de jouer et de s'amuser ensemble. Mais la vie n'est pas parfaite et n'est pas toujours amusante. Nous avons eu des moments difficiles, mais être capable de les affronter ensemble avec le Seigneur nous a vraiment fortifiés et nous a apporté beaucoup de réconfort.
J'ai toujours cru que j'irai au temple quand je me marierai. Et à cause de ce que j'ai traversé, j'y suis finalement allée seule. J'ai ces deux filles magnifiques qui sont les bénédictions de ma vie. Je désire qu'elles vivent leur vie maintenant et se fixent le but d'aller au temple et de ne jamais en dévier.
Nous sommes mariés depuis 5 ans et notre but a toujours été d'être parents. 5 ans d'essais, de fausses alertes.
Arrivé à un certain point, nous avons dit, nous allons être parents, que ce soit de quelqu'un que nous pouvons adopter, ou d'enfants du quartier, ou de qui que ce soit. Tout arrivera au temps voulu par le Seigneur.
L'évêque m'a demandé d'être conseillère à la primaire, mais j'ai refusé cet appel parce que je n'ai aucune patience avec les enfants, étant donné que je n'en ai pas. Puis un jour, le premier conseiller dans l'épiscopat m'a dit « Si le Seigneur vous demandait si vous acceptez cet appel, alors j'ai répondu « D'accord, je vais essayer de l'accepter ». C'est alors que j'ai appris comment être humble, patiente, et comment aimer les enfants. Je n'ai pas de famille, mais l'Église est ma grande famille.
Nous sommes tous les enfants de notre Père Céleste, et il veut que nous servions et aimions notre famille. Les membres de la famille peuvent parfois être agaçants, mais nous devons quand même les aimer.
En plus de nos parents terrestres, nous avons un Père Céleste parfait qui nous a tous créés. Il ne peut créer que des âmes parfaites. Nous ne sommes pas parfaits dans notre vie terrestre, mais nous avons en nous la semence de la perfection. Nous sommes ici-bas pour progresser, pour être raffinés et pour parcourir le chemin qu'il juge bon pour nous.
Les foyers heureux existent sous différentes formes. Le foyer est la base d'une vie juste, et rien d'autre ne peut le remplacer ni remplir ses fonctions essentielles. Si les familles qui composent la société reposent sur des valeurs vraies et sur les vertus fondamentales, l'espoir viendra au bout du désespoir et la foi triomphera du doute.
Thank you for your teaching.
Merci, Frère Monson, pour ses enseignements sur la famille. Le chœur interprétera maintenant « La joie règne au foyer ». Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Bonnie L. Oscarson, présidente générale des Jeunes Filles. Après le discours de Sœur Oscarson, le chœur chantera un arrangement spécial de « Dans nos foyers, tout est beau » et « Sachons dire un mot gentil ». Quel honneur et quelle joie de faire partie de cette merveilleuse assemblée de fillettes, de jeunes filles et de femmes. Combien nous sommes bénis ce soir de nous réunir entre femmes dans l'unité et l'amour. J'ai récemment lu l'histoire de Marie-Madeleine Cardon, qui a reçu avec sa famille le message de l'évangile rétabli de Jésus-Christ qui leur a été apporté par les premiers missionnaires appelés à servir en Italie en 1850. Elle était une jeune fille de 17 ou 18 ans quand elle s'est fait baptiser. Un dimanche, alors que se tenait un service de culte chez elle, sur les hauteurs des Alpes de l'Italie du Nord, un groupe d'hommes en colère, dont certains étaient des pasteurs de la région, se sont rassemblés autour de la maison et ont commencé à crier, à vociférer et à exiger qu'on leur amène les missionnaires dehors. Je ne crois pas qu'ils avaient hâte d'apprendre l'Évangile. Ils comptaient en venir aux mains. C'est la jeune Marie qui est sortie d'un pas déterminé de la maison et qui les a affrontés. Ils ont continué de vociférer et d'exiger qu'on amène les missionnaires dehors. Marie a levé sa Bible et leur a commandé de partir. Elle leur a dit que les missionnaires étaient sous sa protection et qu'ils ne pouvaient pas toucher à un seul de leurs cheveux. Écoutez son récit. Ils étaient tous atterrés. Dieu était avec moi. C'est lui qui a mis ces paroles dans ma bouche, sinon je n'aurais pas pu les prononcer. Tout s'est calmé instantanément. Ce groupe d'hommes forts et féroces est resté impuissant devant une jeune fille faible et tremblante, mais intrépide. Les pasteurs ont demandé aux hommes de partir, ce qu'ils ont fait en silence avec honte, crainte et remords. Le petit groupe de fidèles a terminé sa réunion en paix. Pouvez-vous vous imaginer cette jeune fille courageuse, du même âge que beaucoup d'entre vous, tenant tête à un groupe en colère et défendant ses croyances nouvellement acquises avec courage et conviction? Sœurs, peu d'entre nous auront un jour à affronter une foule en colère, mais une guerre est en cours dans ce monde, une guerre où nos croyances les plus fondamentales et les plus précieuses sont attaquées. Je parle en particulier de la doctrine de la famille. La sainteté du foyer et les objectifs essentiels de la famille sont remis en question, critiqués et assaillis de toutes parts. Quand Gordon B. Hinckley a lu pour la première fois la famille Déclaration au monde, il y a 20 ans cette année, nous avons été reconnaissants de la clarté, de la simplicité et de la véracité de ce document reçu par révélation, et nous l'avons chéri. Nous étions cependant loin de nous rendre compte à quel point nous aurions désespérément besoin de ces déclarations fondamentales dans le monde d'aujourd'hui comme critères permettant d'évaluer chaque nouveau vent de dogme profane qui nous parvient des médias, de l'Internet, des savants, de la télévision et des films, et même des législateurs. La déclaration sur la famille est devenue notre référence pour juger les philosophies du monde. Et je témoigne que les principes énoncés dans cette déclaration sont aussi vrais aujourd'hui qu'ils l'étaient quand ils nous ont été donnés par un prophète de Dieu il y a près de 20 ans. Permettez-moi de faire remarquer quelque chose d'évident. La vie se déroule rarement selon nos plans et nous sommes très conscientes que toutes les femmes ne vivent pas ce que décrit la déclaration. Il est malgré tout important de comprendre et d'enseigner le modèle du Seigneur et nous efforcer de le concrétiser de notre mieux. Chacune de nous a un rôle à jouer dans le plan, et chacune de nous est de valeur égale aux yeux du Seigneur. Nous devrions nous rappeler qu'un Père céleste aimant est conscient de nos désirs justes, et qu'il honorera ses promesses que rien ne sera refusé aux personnes qui respectent fidèlement leurs alliances. Notre Père céleste a une mission et un dessein pour chacune de nous, mais il a également ses échéances. L'une des plus grandes difficultés de cette vie est d'avoir foi dans les échéances du Seigneur. C'est une bonne idée d'avoir en tête un plan de rechange qui nous aide à respecter nos alliances, à être des femmes charitables et justes qui édifient le royaume de Dieu, quelle que soit la direction que prend notre vie. Nous devons enseigner à nos filles à viser l'idéal, mais à anticiper les imprévus. À l'occasion de ce 20e anniversaire de la Déclaration sur la famille, j'aimerais nous lancer le défi à toutes, en qualité de femmes de l'Église, d'être des défenseuses de la famille, Déclaration au monde. Tout comme Marie-Madeleine Cardon a courageusement défendu les missionnaires et ses croyances nouvellement acquises, nous devons défendre hardiment la doctrine révélée du Seigneur, qui décrit le mariage, la famille, les rôles divins de l'homme et de la femme, et l'importance et la sainteté du foyer, Même quand le monde nous crie aux oreilles que ces principes sont dépassés, contraignants et ne sont plus d'application. Tout le monde, quelle que soit sa situation de famille, peut être un défenseur du plan du Seigneur décrit dans la déclaration sur la famille. Si c'est le plan du Seigneur, ce devrait aussi être le nôtre. Trois principes enseignés dans la déclaration ont, je pense, particulièrement besoin de défenseurs inébranlables. Le premier est le mariage entre un homme et une femme. Dans les Écritures, nous apprenons « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Pour obtenir la plénitude des bénédictions de la prêtrise, un homme et une femme doivent être scellés dans la maison du Seigneur, œuvrer ensemble dans la justice et demeurer fidèles à leurs alliances. C'est le plan du Seigneur pour ses enfants. Et aucun discours, aucune critique publique ne changera ce que le Seigneur a déclaré. Nous devons continuer de montrer l'exemple du mariage juste, rechercher cette bénédiction dans notre vie et garder la foi si elle tarde à venir. Soyons des défenseuses du mariage tel que le Seigneur l'a ordonné, tout en continuant de faire preuve d'amour et de compassion envers les personnes dont l'opinion diverge. Le principe suivant, qui exige que nous fassions entendre notre voix pour le défendre, est la hauteur des rôles divins des mères et des pères. Nous enseignons diligemment nos enfants à viser haut dans cette vie. Nous voulons en particulier que nos filles sachent qu'elles ont le potentiel de réussir et d'être tout ce qu'elles peuvent imaginer. Nous espérons qu'elles aimeront apprendre, qu'elles seront instruites, talentueuses et deviendront peut-être même la prochaine Marie Curie ou Eliza R. Snow. Enseignons-nous à nos fils et à nos filles qu'il n'y a pas de plus grand honneur, pas de titre plus noble et pas de rôle plus important dans cette vie que ceux de mère ou de père? J'espère que quand nous encourageons nos enfants à atteindre ce que cette vie offre de meilleur, nous leur enseignons également à honorer et à exalter les rôles que les mères et les pères jouent dans le plan de notre Père Céleste. Notre fille cadette, Abby, a saisi une occasion unique de défendre le rôle de mère. Un jour, elle a reçu un mot de l'école de ses enfants l'informant qu'une journée des métiers allait avoir lieu. Les parents étaient invités à s'inscrire s'ils souhaitaient venir présenter leur métier aux enfants, et Abby a ressenti qu'elle devait s'inscrire pour y participer et parler du rôle de mère. Elle n'a pas reçu de réponse de l'école, et voyant la journée approcher, elle a fini par téléphoner, pensant que son inscription s'était peut-être égarée. Mal à l'aise, les organisateurs ont trouvé deux instituteurs qui ont accepté de permettre à Abby de venir dans leur classe à la fin de la journée des métiers. Au cours de sa présentation très amusante, elle a enseigné aux enfants, entre autres, qu'une mère devait être quelque peu une experte en matière de santé, de psychologie, de religion, de pédagogie, de musique, de littérature, d'art, de finance, de décoration, de coiffure, de conduite de véhicule, de sport, d'art culinaire et bien plus encore. Les enfants étaient impressionnés. Elle a terminé en leur demandant d'écrire un mot de reconnaissance à leur mère pour les nombreux services aimants dont ils faisaient l'objet chaque jour. Elle a eu le sentiment que les enfants ont vu leur mère sous un jour entièrement nouveau et qu'ils ont découvert qu'être une mère ou un père était quelque chose de grande valeur. Elle s'est inscrite pour participer de nouveau cette année à la journée des métiers et a été invitée à faire sa présentation dans 6 classes. Elle a dit de son expérience. J'ai l'impression qu'il serait facile dans ce monde pour un enfant d'avoir le sentiment qu'être parent est un emploi secondaire ou même parfois un mal nécessaire. Je veux que chaque enfant sente qu'il est la priorité la plus importante de ses parents. Et peut-être que si je leur dis combien c'est important pour moi d'être parent, cela les aidera à prendre conscience de tout ce que leurs parents font pour eux et pourquoi ils le font. Notre prophète bien-aimé Thomas Monson est un merveilleux exemple par la manière dont il honore les femmes et la maternité, en particulier sa propre mère. En parlant de notre mère terrestre, il a dit « Chérissons tous cette vérité. Nul ne peut oublier sa mère et se souvenir de Dieu. Nul ne peut se souvenir de sa mère et oublier Dieu. Pourquoi ? Parce que ces deux personnes sacrées, Dieu et notre mère terrestre, partenaires dans la création, dans l'amour, dans le sacrifice et dans le service, sont unis. Le dernier principe que nous devons défendre est la sainteté du foyer. Nous devons prendre un terme qui est souvent tourné en dérision et l'élever, C'est le terme « maîtresse de maison ». Chacun de nous, femmes, hommes, jeunes et enfants, célibataires ou mariés, peut travailler à devenir maître ou maîtresse de maison. Nous devrions faire de notre foyer un lieu de refuge, de sainteté et de sécurité. Notre foyer devrait être un lieu où l'on ressent abondamment l'Esprit du Seigneur et où l'on étudie, enseigne et met en pratique les Écritures et l'Évangile. Combien les choses seraient différentes dans le monde si les gens se considéraient comme des maîtres et maîtresses de maison justes. Défendons le foyer, un lieu qui vient juste après le temple, quant à la sainteté. Sœurs, je suis reconnaissante d'être une femme en ces derniers jours. Nous avons des occasions et des possibilités qu'aucune autre génération de femmes n'a eues dans le monde. Édifions le royaume de Dieu en défendant hardiment le mariage, le rôle des parents et le foyer. Le Seigneur a besoin que nous soyons des guerrières courageuses, constantes et immuables, qui défendront son plan et enseigneront ses vérités aux générations à venir. Je témoigne que notre Père Céleste vit et aime chacune d'entre nous. Son Fils Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur. Je vous rends ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœurs, nous remercions sincèrement chacune d'entre vous d'avoir passé cette soirée inspirante avec nous. Nous remercions le chœur et toutes les autres personnes pour leur participation, ainsi que toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Nous sommes reconnaissants d'avoir comme dernier orateur Henry B. Ehring, premier conseiller dans la première présidence. Après le message du président Ehring, le chœur chantera « Divine Amour ». Rena Aburto, membre du bureau général de la primaire, fera ensuite la prière de clôture. Président Ehring, nous allons maintenant avoir le plaisir de vous écouter nous instruire.
My beloved sisters,
mes chères sœurs, c'est une joie pour moi d'être avec vous. Je pense à ma mère, à mon épouse, à mes belles-filles, à mes petites-filles. Certaines d'entre elles sont ici. Et ce programme merveilleux m'a fait apprécier encore davantage une si belle famille. Et le fait de savoir que la raison pour laquelle nous avons eu une si belle vie de famille est que le Sauveur est au centre de chacune de leurs vies. Ce soir, nous avons évoqué le Sauveur par la musique, les prières et des discours inspirés. L'un de ses attributs que nous apprécions le plus est sa compassion infinie. Vous avez senti qu'il vous connaît et vous aime. Et vous avez ressenti son amour pour les personnes qui sont assises autour de vous. Elles sont vos sœurs, des filles d'esprit de notre Père Céleste. Il les aime comme il vous aime. Il comprend tout leur chagrin. Il veut les secourir. Le message que je vous adresse ce soir est que vous pouvez et devez être une part importante du réconfort qu'il veut donner aux personnes qui en ont besoin. Vous pouvez bien remplir votre rôle si vous comprenez mieux comment il répond aux prières des gens qui demandent de l'aide. Nombreuses sont celles qui prient notre Père Céleste de les soulager, de les aider à porter leur fardeau de chagrin, de solitude et de crainte. Notre Père Céleste entend ces prières et comprend leurs besoins. Lui et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ ressuscité, ont promis d'aider. Jésus-Christ a fait cette promesse touchante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Les fardeaux que ses serviteurs fidèles doivent porter dans la vie sont allégés par son expiation. Mais les épreuves de la condition mortelle pour les personnes bonnes peuvent quand même être de lourds fardeaux. Vous avez vu de telles épreuves dans la vie de personnes bonnes que vous aimez. Vous avez éprouvé le désir de les aider. Vos sentiments de compassion à leur égard ont une raison d'être. Vous êtes membre par alliance de l'Église de Jésus-Christ. Un grand changement a commencé à se produire dans votre cœur quand vous êtes entré dans son Église. Vous avez contracté une alliance et vous avez reçu une promesse qui a commencé à changer votre nature même. Alma décrit en ces termes, aux eaux de Mormon, ce que vous avez promis à votre baptême et ce que cela signifiera pour vous et pour votre entourage. Il s'adressait à des gens qui étaient sur le point de contracter les alliances que vous avez faites, et ils ont également reçu la promesse que le Seigneur vous a faite. Voici, ici se trouvent les eaux de Mormon, car c'est ainsi qu'elles étaient appelées. Et maintenant, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, et être disposé à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers, oui, et être disposé à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses, et dans tous les lieux où vous serez jusqu'à la mort, afin d'être rachetés par Dieu, et d'être comptés avec ceux de la première résurrection, afin que vous ayez la vie éternelle. C'est pour cela que vous avez à cœur d'aider quelqu'un qui a du mal à avancer sous une charge de chagrin et de problèmes. Vous avez promis d'aider le Seigneur à alléger leur fardeau et à les consoler. Vous avez reçu le pouvoir d'aider le Seigneur à alléger ses charges quand vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Le Sauveur a décrit la manière dont il allège et soulage les charges. Quand il était sur le point d'être crucifié, il savait que ses disciples seraient dans le deuil. Il savait qu'ils craindraient l'avenir. Il savait qu'ils douteraient de leur capacité d'avancer. Alors il leur a fait la promesse qu'il nous fait à nous et à tous ses disciples. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Puis il leur a promis, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ces dernières semaines, j'ai vu cette promesse d'envoyer le Saint-Esprit se réaliser dans ma vie et dans celle d'enfants de Dieu qui, en prière, imploraient que leur fardeau soit allégé. Le miracle de l'allègement de la charge est survenu de la façon promise par le Seigneur. Lui et notre Père Céleste ont envoyé le Saint-Esprit en qualité de consolateur et aidé ses disciples. Récemment, trois générations d'une famille étaient affligées par la mort d'un garçonnet de 5 ans. Il est mort accidentellement pendant des vacances en famille. Une fois de plus, l'occasion m'a été donnée de voir comment le Seigneur accorde aux fidèles le soulagement et la force d'endurer. J'ai observé la manière dont le Seigneur a allégé leur lourd fardeau. J'étais présent en qualité de serviteur d'alliance du Seigneur, comme cela vous arrivera souvent, pour pleurer avec ceux qui pleurent et consoler ceux qui ont besoin de consolation. Sachant que c'était vrai, j'ai été content et en paix quand les grands-parents m'ont invité à les rencontrer et à rencontrer les parents du petit garçon avant les obsèques. J'ai prié pour savoir comment je pouvais aider le Seigneur à les consoler. Ils ont pris place avec moi dans mon salon. Il faisait froid ce soir-là. J'avais réchauffé la pièce par une petite flambée dans la cheminée. Je me suis senti poussé à leur dire que je les aimais. Je leur ai dit que je ressentais l'amour du Seigneur pour eux. J'ai essayé de leur dire en quelques mots que j'avais du chagrin pour eux, mais que seul le Seigneur connaissait et pouvait éprouver parfaitement leur douleur. Après ces quelques paroles, je les ai écoutés avec amour exprimer leurs sentiments. Pendant l'heure que nous avons passée ensemble, ils ont parlé bien plus que moi. Je sentais à leur voix et je voyais à leurs yeux que le Saint-Esprit les touchait. Ils ont parlé de ce qui était arrivé et de ce qu'ils éprouvaient en termes de témoignages simples. Le Saint-Esprit leur avait déjà donné la paix qu'apporte l'espérance de la vie éternelle, où leur fils, mort sans péché, pourrait être leur à jamais. Quand je leur ai donné à chacun une bénédiction de la prêtrise, j'ai rendu grâce pour l'influence du Saint-Esprit qui était présent. Le Consolateur était venu nous apporter à tous l'espoir, le réconfort et un supplément de force. Ce soir-là, j'ai vu une démonstration de la manière dont le Seigneur œuvre par notre intermédiaire pour alléger les fardeaux de son peuple. Vous vous souvenez quand, dans le livre de Mormon, son peuple est presque écrasé sous le poids des fardeaux que de cruels chefs de corvée ont placés sur lui? Le peuple implore pour avoir de l'aide, comme le font beaucoup des personnes que nous aimons et servons. Voici le récit que je sais être vrai. Et j'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos pendant que vous êtes en servitude. Et cela, je le ferai pour que vous soyez plus tard témoins pour moi, et que vous sachiez avec certitude que moi, le Seigneur Dieu, j'interviens effectivement en faveur de mon peuple dans ses afflictions. Et alors, il arriva que les fardeaux qui étaient imposés à Alma et à ses frères furent rendus légers. Oui, le Seigneur les fortifia de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité. Et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. J'ai vu ce miracle maintes et maintes fois. La meilleure façon d'alléger les fardeaux des autres est d'aider le Seigneur à les fortifier. C'est pour cela que le Seigneur a inclus dans notre responsabilité de consoler les autres le commandement d'être ses témoins en toutes choses et dans tous les lieux. Ce soir-là, dans mon salon, le père et la mère du petit garçon ont témoigné du Sauveur. Le Saint-Esprit est venu. Nous avons tous été consolés. Les parents ont été fortifiés. Le fardeau du chagrin n'a pas disparu, mais ils ont reçu la capacité de le porter. Leur foi s'est accrue et leur force continuera d'augmenter s'ils la demandent et vivent de manière à la recevoir. Le témoignage de l'expiation que l'Esprit a rendu ce soir-là a aussi donné à Job la force de porter son fardeau. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. C'est ce témoignage de l'Esprit qui lui a donné la force de supporter l'épreuve. Il allait endurer le chagrin et l'absence de consolation de la part de son entourage pour connaître la joie que reçoivent les justes qui traversent fidèlement leurs épreuves. Cela a été vrai pour Job. Il a reçu des bénédictions. L'histoire de Job se termine par ce miracle. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. C'est le témoignage que l'Esprit a rendu de l'expiation, qui a permis à Job de traverser les épreuves que la vie est censée comporter. Cela fait partie du grand plan du bonheur que le Père nous a donné. Il a permis à son Fils de fournir, par son sacrifice expiatoire pour nous, l'espérance qui nous console, quelle que soit la difficulté du chemin qui nous ramène à lui. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit consoler et fortifier les disciples du Maître dans leur parcours. J'ai vu ce miracle de consolation en arrivant à l'extérieur de l'église où devaient se tenir les obsèques du petit garçon. J'ai été arrêté par une jeune femme que je n'ai pas reconnue. Elle m'a dit qu'elle venait aux obsèques pour faire son deuil et apporter du réconfort si elle le pouvait. Elle m'a dit qu'elle venait aussi pour trouver elle-même le réconfort. Elle m'a dit que son premier enfant était décédée récemment. Elle portait dans ses bras une belle petite fille. Je me suis penché vers elle pour regarder le visage souriant du bébé. J'ai demandé à sa mère, « Comment s'appelle-t-elle ? » Elle s'est empressée de me répondre gaiement, « Elle s'appelle Joy. » La joie vient toujours après le chagrin. Elle me rendait témoignage. Je voyais que la paix et la consolation lui étaient parvenues de la seule source sûre. Seul Dieu connaît notre cœur et il est le seul à pouvoir véritablement dire « Je sais ce que tu ressens. Je ne peux qu'imaginer sa joie et le chagrin qui l'a précédé. Mais le Seigneur qui l'aime sait. Je ne peux savoir que partiellement combien il éprouve de joie chaque fois que vous, son disciple, l'aidez à donner un moment de paix et de joie à un enfant de notre Père Céleste. Je témoigne que le Seigneur nous a demandé à chacun de nous, ses disciples, de nous aider mutuellement à porter nos fardeaux. Nous avons promis de le faire. Je témoigne que le Seigneur, par son expiation et sa résurrection, a brisé le pouvoir de la mort. Je témoigne que le Christ vivant envoie le Saint-Esprit, le Consolateur, aux personnes que nous sommes engagés à l'aider et à consoler. Vous êtes toutes témoins, comme moi, de la véracité de l'inscription du pins que ma mère a porté pendant plus de 20 ans, comme membre du bureau général de la Société de Secours. On y lit « La charité ne périt jamais ». Je ne comprends toujours pas pleinement la signification de ces mots, mais j'en ai eu un aperçu en voyant ma mère tendre la main aux nécessiteux. L'Écriture nous enseigne cette vérité. La charité est l'amour pur du Christ. L'amour du Sauveur ne périt jamais, et nous ne cesserons jamais de ressentir dans notre fort intérieur le désir de pleurer avec ceux qui pleurent et de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Et la paix qu'il promet ne nous quittera jamais si nous servons les autres pour lui. Moi qui suis son témoin, je vous exprime ma gratitude pour tout ce que vous faites si bien pour aider le Seigneur Jésus-Christ vivant et le Saint-Esprit, le Consolateur, à fortifier les genoux qui chancellent et les mains languissantes. Au nom de Jésus-Christ. Et je suis reconnaissant pour toutes les femmes merveilleuses dans ma vie qui m'ont aidé et ont été une source de bénédiction pour moi. En vrai disciple de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.
our Father who art in heaven.
Notre Père céleste, en tant que fille de ton royaume, nous venons devant toi, le cœur plein de gratitude pour ce moment et les incitations de ton esprit que nous avons reçues en écoutant les messages inspirés de cette session générale des femmes. Nous te remercions, Père, pour ton Fils et pour son expiation rédemptrice et habilitante. Nous te prions, Père, pour que nous puissions être unis en compassion et sympathie pour pouvoir réconforter ceux qui ont besoin de réconfort. Aide-nous, s'il te plaît, Père, à défendre la famille, le mariage et le foyer, pour que nous puissions diriger des foyers justes. Aide-nous à faire en sorte que ton esprit emplisse notre foyer en tout temps. Et nous prions pour que nous puissions aussi ressentir l'amour de notre Sauveur en étant toutes unies et unies à toi et à ton Fils. Nous prions pour ces choses, Père, humblement, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.